Alors bonjour, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc. Au travers de ces chants, nous avons rappelé, chanté, loué Dieu pour l'incarnation. Et aujourd'hui, nous allons justement lire ce texte qui nous en parle dans le chapitre 2 de l'évangile selon Luc. Les dernières fois, avec le premier chapitre, en fait, on avait vu que Luc entoure tous ces textes de la nativité d'une grande joie et que cette joie s'oriente pleinement vers l'enfant de Marie qui a été annoncé, qui vient. Et c'est ce que nous allons encore voir ce matin. Donc, Luc, au chapitre 2, je lis les versets 1 à 20. En ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils, premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges se furent éloignés, d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie conservait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Luc est le seul des évangélistes à nous rapporter ces événements. Et il fait certains choix qui peuvent être assez étonnants, bizarres même, dans sa manière de nous relater cela. Et au travers de ce texte, au final, Luc insiste pour nous parler de l'incarnation. C'est le moment où, effectivement, il y a cette naissance. Dieu se fait homme, Jésus-Christ est né. Mais il nous montre cela aussi, que cette incarnation est historique. Cette incarnation est un fait historique. C'est quelque chose qui est vraiment arrivé dans l'histoire. Et cela est important autant pour les gens de son époque que ce soit historique comme pour nous, parce que ça veut dire que l'évangile est vrai. S'il n'y a pas d'incarnation, vous pouvez tous rentrer chez vous. Vous avez fini votre matinée, ça ne sert à rien d'être là. Mais l'incarnation est un fait historique, insiste Luc, pour nous dire que cette grâce que Dieu répand, cette grande affirmation qu'il s'est donné, qu'il s'offre en sacrifice, est vraie. Et c'est encore à recevoir et à vivre, autant pour les premiers lecteurs que pour nous aujourd'hui. Quelques remarques pour mettre cela en avant. Première remarque, Luc entre fortement son récit dans l'histoire. Effectivement, versets 1 et 2, il nous dit que c'était au temps de César Auguste et aussi au temps du gouverneur. C'est-à-dire qu'il replace clairement dans un contexte historique le récit qu'il est en train de nous relater. César Auguste, qui est le vrai premier empereur romain, et ce Quirinius. Et l'histoire romaine nous confirme effectivement que l'empereur Auguste, Octave Auguste, a demandé, a ordonné trois grands recensements, en fait, dans son royaume, durant son règne. Un qu'il a fait en 28 avant Jésus-Christ, l'autre en 8 avant Jésus-Christ, et le dernier en 14 après Jésus-Christ. Et pour Quirinius, il y a tout un ensemble de désaccords, de réflexions exactement quand il a occupé les postes dont on nous parle. Mais un consensus existe pour nous dire qu'il a occupé un de ses postes, notamment de 12 à 2 avant Jésus-Christ. Alors qu'il est clair qu'un recensement, ça ne faisait pas comme ça se faisait aujourd'hui. On ouvre son ordinateur, on clique sur 2-3 réponses et puis on envoie et César reçoit tout à Rome. Ça prenait du temps. Ce qui fait que, en fait, d'après les calculs, on n'est pas entièrement sûr, mais que Jésus-Christ serait né ici, en fait, en 6 avant lui-même. Jésus serait né en 6 avant Jésus-Christ. Et Luc, donc, inscrit son récit ici fortement dans l'histoire pour nous dire « Je ne suis pas en train de vous inventer une histoire. Ce n'est pas un mythe que je suis en train de vous raconter, comme il en existe tellement d'autres dans les mythologies. » Il nous parle d'un événement réel, de faits réels qui sont vérifiables. Vous ne me croyez pas ? Donc ça, c'était à l'époque. Hein. Vous ne me croyez pas ? Allez vérifier. Allez vérifier les faits. Il nous parle même de témoins qu'on peut encore interroger. Donc l'évangile ici, cette bonne nouvelle de la venue de Jésus-Christ est historique, et plus particulièrement l'incarnation est historique. Et ce qui est intéressant aussi ici de noter, c'est que ça se fait sous la conduite en fait de l'empereur César Auguste. C'est lui qui a demandé à ce qu'il y ait un recensement et que tout le monde retourne dans sa ville d'origine. Et il a fait cela pour affirmer sa grandeur et sa puissance. Voyez sur quelle grande population je règne. Et voyez donc quels sont mes effectifs et à quel point je suis grand et énorme. Et grâce à cela, en fait, Dieu a réalisé une chose qu'il avait annoncée lui-même, Michée 5. « Et toi, Bethléem, Ephrata, toi qui es petite parmi les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au lointain passé, au jour d'éternité. » Le prophète nous annonce que quelqu'un va naître qui était éternel. Qui est éternel ? Et il va naître à Bethléem. Et comment Dieu a orchestré cela ? Il a orchestré cela par la folie mégalomane d'un homme qui voulait montrer à quel point il est puissant. Et au travers de cela, Dieu a dit, non, c'est pas toi, c'est moi qui suis puissant. C'est pas ton histoire, c'est mon histoire qui prend place et elle se déroule aujourd'hui dans l'histoire. Deuxième remarque, c'est que Luc nous parle de témoins invraisemblables. Effectivement, on n'a pas des grands hommes qui viennent visiter Jésus. Ce n'est pas à des personnages importants que l'ange apparaît pour dire « Aujourd'hui, réjouissez-vous, allez dans la ville de Bethléem. » Ce n'est pas aux prophètes du temps, ce n'est même pas à Siméon qu'on va lire juste après, ce n'est pas aux sacrificateurs, aux souverains sacrificateurs, ce n'est pas aux hommes politiques de l'époque, mais c'est à des bergers. À des bergers. Pourquoi ? Des bergers. Dans la Palestine du 1er siècle, les bergers étaient considérés plutôt comme des vagabonds, comme des voleurs qui ne sont pas vraiment dignes de confiance. Et pour certains rabbins même, les bergers étaient des personnes impures. Donc on ne touchait pas un berger. En fait, il nous empêche d'être en relation vraiment avec Dieu. Ce qui fait que dans un procès, on ne recevait pas le témoignage d'un berger. Alors pourquoi Luc nous parle de ça ? Pourquoi il nous prend un témoin invraisemblable pour nous dire que c'est arrivé ? En plus, il va faire deux fois ça. À la fin, qu'est-ce qu'il va faire ? À la fin de l'évangile, quand il va nous parler de la résurrection de Jésus-Christ, il va nous dire que l'ange est apparu à qui ? Ou même que Jésus est apparu à qui ? À des femmes ! Quelle idée, sérieux ! Parce qu'à l'époque, on ne reçoit pas le témoignage d'une femme. Donc il commence avec des personnes dont on ne reçoit pas le témoignage, des bergers, et il finit avec des personnes dont on ne reçoit pas le témoignage, des femmes. Pourquoi ? Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il nous parle de témoins dont on ne croit pas, qu'on n'écoute pas ? Pourquoi ? À votre avis ? Comment ?
Pour humilier les grands, les puissants, les intelligents.
Ouais. Pour les humilier, mais de toute manière, on ne les croira pas. Donc, quand tu racontes un truc invraisemblable, rappelez-vous, que parfois, il y a un truc énorme qui vous est arrivé, et vous le racontez, et personne ne vous croit. Qu'est-ce que vous dites ? J'y peux rien. C'est arrivé comme ça. Donc, quelque part, de nous présenter des témoignages invraisemblables, nous dit simplement, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Si j'avais dû construire un mythe, est-ce que c'est le que j'aurais choisi ? J'aurais choisi des bergers ? J'aurais choisi des femmes ? La réponse est quoi ? C'est non. Hein ? Mais ouais, on aurait choisi des personnes qu'on croit. Et là, Luc nous relate cet événement incroyable parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai, simplement. Il affirme ici la réalité au travers de cela. Et l'ange qui parle à ses bergers, et ils vont devoir transmettre cela, ce message assez incroyable, utilise trois termes très riches en signification dont on a chanté juste avant. Il parle d'un sauveur, d'un Christ et d'un Seigneur. Verset 11. Il vous est né dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et effectivement, dans l'Ancien Testament, le terme sauveur est donné à des hommes qui viennent libérer le peuple, comme les juges, qui étaient des grands guerriers, qui prenaient leur épée pour aller libérer leur peuple. Et quand on progresse dans l'histoire d'Israël, on est de plus en plus dans l'attente de la libération, non pas d'un ennemi physique, d'une armée étrangère, mais Dieu commence à nous parler d'un autre ennemi, beaucoup plus grand, même si on avait déjà cela en Genèse 3, mais où c'est Dieu qui promet qu'il va nous libérer de l'ennemi ultime. Et au final, c'est lui-même qui sera ce sauveur. Il sera le libérateur de son peuple. Et ce terme de Christ, qui veut dire Messie, celui sur lequel on verse de l'huile, pour le consacrer à Dieu, c'est ce serviteur de Dieu. Et quand on commence à lire encore une fois dans l'Ancien Testament, notamment avec le prophète Ésaïe, on apprend que ce premier Messie, c'est d'abord Cyrus. Cyrus, qui est un roi perse, qui vient permettre au peuple d'Israël de repartir dans son pays. Mais au travers de cela, Dieu annonce qu'il y aura un plus grand Cyrus. Il y aura un plus grand Christ, un plus grand serviteur qui arrive, qui ne va pas vous libérer de l'emprise babylonienne, mais qui va vous libérer d'une plus grande emprise. Et là, on arrive notamment sur le chapitre 53 d'Ésaïe. Il va nous libérer de notre péché, libéré de nos fautes. C'est le terme, le chant qu'on a chanté ici, Jesus Messiah, n'est-ce pas ? Et ce serviteur sera encore une fois Dieu lui-même. Et enfin, le mot Seigneur, qui peut avoir une simple, encore une fois, notion de politesse, mais dans l'Ancien Testament, ce terme Seigneur est celui qui a été remplacé pour exprimer le terme Yahvé, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et Luc, depuis le début, n'arrête pas de nous dire que ce Seigneur, c'est Dieu lui-même. Et c'est effectivement ce qu'on voit encore une fois dans notre texte ici, au verset 15, quand les anges, les bergers parlent, voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Il s'agit de Dieu lui-même. Donc trois termes très riches dans le vocabulaire de l'Ancien Testament. Et ici, en fait, l'élément extrêmement étonnant, c'est que ces trois termes s'adressent et nous parlent d'un nouveau-né. Un bébé va être votre libérateur. Vous croyez ça, vous ? Vous êtes à la Seconde Guerre mondiale et je vous dis, il y a un bébé, c'est votre libérateur ? Et là, vous me dites, Philippe, ça va pas bien ? N'est-ce pas ? Vous voyez un bébé, c'est celui que Dieu a désigné. Mais les bébés, ça n'a pas de valeur à l'époque. Excusez-moi, c'est pour moi, c'est comme ça à l'époque. Et c'est lui qui est votre Seigneur, votre Dieu, un nouveau-né qui regroupe toutes ces révélations, toute cette richesse de ces termes. Et donc Luc fait ici clairement le lien entre le fait que ce nouveau-né n'est pas n'importe qui. Ce nouveau-né qui s'inscrit dans l'histoire, c'est le Dieu qui vient à notre rencontre. C'est l'incarnation, le Dieu qui entre dans la chair humaine, le Dieu qui se fait homme. Et pourquoi est-ce si important ici de commencer l'évangile en affirmant la grande vérité, la grande historicité de l'incarnation ? Qu'est-ce qu'on loupe si on n'a pas l'incarnation ? Si l'incarnation n'est pas vraie, qu'est-ce qu'on loupe ? Dites-moi. Qu'est-ce qui nous manque ? Quel est le problème ? Exactement. On perd la personne qui est semblable à nous. Et quoi d'autre ?
Qui a été tenté comme nous en toutes choses.
Ouais. C'est encore une fois ce qu'on a chanté. Il est devenu péché comme nous, comme moi. Et toi, n'est-ce pas ? Mais pas seulement. Il nous manque celui qui est puissant pour le faire. Imaginons la situation suivante. Il y a quelqu'un qui roule en voiture et il y a quelqu'un qui arrive en face parce qu'il voulait doubler une file de voitures et qui n'avait pas vu qu'il y avait quelqu'un qui vient. Donc il a déboîté et c'est le choc frontal. Et la personne, et les deux personnes accidentées vont à l'hôpital pour être soignées. Et la femme de cet homme qui était parti au travail normalement, pas celui qui a doublé, mais l'autre, qui était sur sa file, qui conduisait bien, arrive à l'hôpital et elle arrive dans la chambre où il y a les deux malades, les deux accidentés, mais elle ne voit plus qu'un seul lit qui est plein. L'autre est vide. Et on lui dit, désolé madame, votre mari est mort. Et il n'avait pas fait de faute, il avait bien conduit. Et l'infirmière qui lui dit cela va voir l'autre gars qui a créé l'accident et qui lui dit, voilà, le monsieur que vous avez accidenté est décédé. Vous, vous en sortez bien, vous avez juste quelques écrétinures, vous pourrez sortir bientôt, mais vous en faites pas, je vous pardonne. Vous êtes la femme de ce monsieur qui est mort, vous entendez ça, vous dites quoi ? Comment vous réagissez ? Quand vous entendez, je vous pardonne. Comment ? Ah ouais, minimum, hein ? Exactement.
Vous prenez pour qui ? C'est à moi de
pardonner. Exactement. Vous prenez pour qui ? De quel droit vous pardonnez ? Vous avez subi aucun tort. C'est pas vous qui êtes veuf. On vous a pas fait mal à vous. La seule personne qui a le droit de pardonner, c'est la personne qui a été offensée. Et personne d'autre. Cette histoire de conjoint, malheureusement, est une histoire vraie. Et si vous vous rappelez un épisode de la vie de Jésus, qu'on a déjà lu, c'est au chapitre 4, si je me souviens bien. Non, 5. Avec Jésus qui guérit un paralytique. Vous vous souvenez ce qu'il a dit d'abord au paralytique ? La première chose qu'il a dit ? Tes péchés sont pardonnés. Et comment ils ont réagi les pharisiens autour ? Mais cet homme blasphème. Pourquoi il blasphème ? Cet homme n'a pas le droit, il se prend pour Dieu. Et ils ont raison de réagir comme ça, n'est-ce pas ? Qui a le droit de pardonner ? Ils disent, Dieu seul peut pardonner. Cet homme, ce Jésus-là, n'a pas le droit de dire cela. Parce que Dieu seul est l'offensé. Et Jésus leur répond, ouais, c'est quoi vos pensées? Il va leur montrer qu'il a le droit. Qu'est-ce qui est plus facile de dire? Lève-toi ou marche ou tes péchés sont pardonnés? C'est quoi qui est plus facile à dire, franchement? Tes péchés sont pardonnés, hein, franchement, je peux vous le dire tout ça. Vos péchés sont pardonnés, ça ne changera rien, n'est-ce pas? Mais il faut que je vous le démontre que j'ai le droit de faire cela. Et Jésus le leur démontre par un miracle énorme que Dieu n'accorderait pas à un blasphémateur. Et Jésus est en train de dire cela. Je suis Dieu. Je suis l'offensé. Et à cause de cela, j'ai le droit de pardonner. Et c'est l'insistance ici de Luc. Ce nouveau-né qu'on appelle Christ, Seigneur, Sauveur, est le Dieu offensé. Et le Dieu contre qui chacun d'entre nous avons commis le mal. Que ce soit par nos actes, par nos pensées, par nos paroles, envers moi ou envers quoi, envers nous-mêmes ou envers quelqu'un d'autre. Et c'est ce Dieu offensé qui vient dans l'histoire. C'est ce Dieu offensé qui s'approche de nous. C'est ce Dieu offensé qui vient prendre notre place. Et grâce à cela, il peut y avoir de l'aide, du secours. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Voilà le message. Il veut transmettre cette paix. Il veut rechercher ces hommes, le Dieu offensé. L'incarnation, c'est vrai, reste un grand mystère. Même si Luc fait tout cet effort de nous l'inscrire dans l'histoire, de nous dire que c'est quelque chose de réel, on a du mal à tout capter, n'est-ce pas? Mais Luc est en train de dire, voilà la chose que tu dois comprendre, c'est vrai. Dieu veut pardonner, et veut à tel point pardonner qu'il s'est approché de toi. Aujourd'hui, tu peux être pardonné, même si tu ne te sens pas digne de cela. Parce que ce pardon-là ne dépend pas de toi. Ce pardon-là ne dépend pas de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Ce pardon, nous dit Luc, dépend seulement de ce Dieu qui veut s'approcher, de ce Dieu offensé qui veut pardonner l'offenseur. Le pardon réside uniquement dans cette offensée-là. Et cela a des répercussions dans notre vie. Si, encore une fois, toi-même, tu n'as pas connu ce pardon qu'on a chanté, qu'on lit là, sache qu'il est pour toi. Dans cette période de Noël, on veut se réjouir que Dieu vient pardonner. Quelle que soit l'horreur de ta vie, quelle que soit l'horreur de tes pensées, quel que soit ton passé, Dieu a du plaisir à te pardonner. Et il l'a prouvé dans cette période de Noël qui conduit à Pâques. Pâques a du sens parce que l'offenseur a pris notre place. Parce que le Dieu offensé prend la place de l'offenseur. Parce qu'une personne juste, parfaite, meurt à la place d'une personne injuste. Et c'est cette bonne nouvelle qu'on veut encore rappeler dans ce temps de Noël. Mais pour toi qui connais déjà Jésus-Christ, pour toi qui as déjà accepté son pardon, quelles sont les répercussions de cela dans ta vie? Qu'est-ce que l'incarnation nous dit à nous encore aujourd'hui en tant que chrétiens? Elle nous place face à un grand exemple, et pas seulement à un grand exemple, mais à une grande force. C'est que le pardon est possible. Non pas seulement le pardon initial que Dieu nous a accordé, mais ce pardon continu, mais aussi que c'est ça qui nous donne la force à nous aussi de pardonner. Dieu nous offre une relation qu'on ne mérite pas, n'est-ce pas? Et là, c'est la question pour toi, qui est déjà croyant, qui est déjà disciple. Et toi, comment tu offres ta relation? Est-ce que, à l'exemple de celui qui t'offre une relation, tu offres par grâce, ou alors on doit mériter la relation avec toi? Est-ce que tu offres le pardon par grâce, ou on doit mériter le pardon de toi et de moi? Comment tu te comportes avec tes collègues? Comment tu vis avec tes parents ou avec tes enfants? Est-ce que tes enfants, si tu en as, doivent mériter ton approbation de père? Doivent mériter ton amour de père ou de grand-père? Ou parce que tu as été aimé par grâce, tu offres toi aussi cet amour et cette relation comme un cadeau? Je t'aime parce que je t'aime, parce que j'ai fait le choix de t'aimer, même si aujourd'hui, franchement, c'est pas toujours facile. Mais je fais ce choix-là. Parce que c'est comme ça que Dieu m'a aimé. La grâce, cette faveur que on ne mérite pas, que je ne mérite pas. Est-ce que c'est celle-là qui nous offre cette puissance pour continuer, cette motivation pour avancer? Et ça, j'aimerais t'inviter à réfléchir sur cette année qui vient de s'écouler. Quels sont les restes d'amertume et de colère qu'il y a en toi et en moi? Et il peut y en avoir, n'est-ce pas? Et comment on les gère? Est-ce qu'on doit attendre que l'offenseur vienne s'aplatir devant nous? Ou alors on prend l'exemple sur cette grâce qui nous a sauvés et on prend les devants comme ce Dieu, ce Seigneur, ce Christ, ce Sauveur qui a pris les devants. Au final, ça veut dire la chose suivante. L'évangile qu'on croit, est-ce qu'on le vit? Parce que c'est bien de croire l'évangile. Je vous encourage. Mais ça ne suffit pas. L'évangile qui sauve est un évangile qui transforme la vie et qui transforme nos relations. À quel point on se laisse transformer encore aujourd'hui? Face à cette année écoulée, face à ces blessures que tu as subies, est-ce que tu es en train de les entretenir bien soigneusement pour que la plaie reste bien ouverte, pour avoir le droit de maugréer contre quelqu'un? Est-ce que tu es toujours en train de te plaindre et d'attendre que l'offenseur doive s'aplatir devant toi? Ou alors tu es prêt à prendre les devants, à incarner l'évangile, à ce que l'évangile que l'on croit et qui nous a été annoncé, qui a été vécu par Jésus-Christ, puisse prendre chair en toi et en moi. Pour que dans cette nouvelle année qui va commencer, alors qu'on la commence en se rappelant que Jésus-Christ est venu, on va pouvoir le transmettre et le vivre autour de nous, dans nos familles, dans notre travail. Et je t'invite ça particulièrement à y réfléchir dans ce temps de Noël où parfois c'est pas toujours facile de se retrouver en famille, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des casseroles qui traînent. Comment on gère ces casseroles? Est-ce que l'évangile va nous marquer pour les transformer avec la part que nous on peut? Jésus est venu pour apporter ce message, pour apporter le pardon, et ceux qui l'ont refusé, il a accepté. Il n'a pas pu aller plus loin. Mais est-ce que nous va prendre les devants pour aller jusque nous, là où on peut aller? Et vivre cet évangile, incarner cet évangile à notre tour, pour que cet évangile qui a été incarné historiquement, véritablement, puisse continuer son histoire aujourd'hui en étant incarné dans les disciples de ce Seigneur, de ce Sauveur, de ce Christ.